France Inter. 7-10.
Lundi 6 mai, bonjour à tous et bienvenue sur Inter. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, l'Ukraine au programme de la visite d'État du président chinois.
Xi Jinping, indéfectible soutien de Vladimir Poutine, rencontre Emmanuel Macron aujourd'hui à l'Élysée. Le parti présidentiel Renaissance présente aujourd'hui son programme pour les européennes. Début aujourd'hui à Aix-en-Provence du procès des héritiers du gang de la Brise de Mer. Et puis il a réalisé la jonction avec l'Angleterre il y a 30 ans dans le tunnel sous la Manche. Rencontre dans ce journal avec Philippe Cosette qui se souviendra toute sa vie de ce 6 mai 94.
Et les invités du 7-10 ce matin à 7h50. Sonia De Villers, bonjour.
Bonjour à tous. Visite de Xi Jinping en France, que faut-il en attendre? Question à Raphaël Glucksmann, tête de liste PS Place Publique aux élections européennes. Il s'est battu au Parlement pour la défense de la minorité ouïghour et a présidé la commission spéciale sur les ingérences étrangères.
À tout à l'heure, 8h20, le grand entretien de la matinale avec l'ancien ministre Jean-Yves Le Drian, aujourd'hui représentant personnel d'Emmanuel Macron au Liban. 9h20, Léa Salamé reçoit l'actrice Emmanuelle Berco.
France Inter.
Un banquet ce soir à l'Élysée après la cérémonie en grande pompe aux Invalides. La France déroule le tapis rouge pour le président chinois pour la première fois en Europe depuis 2019. Xi Jinping est arrivé hier avec son épouse, ancienne star de la chanson, pour cette visite d'État. Il vient célébrer les 60 ans de relations diplomatiques franco-chinoises. Les diplomates ayant ouvert l'ambassade de Chine en France sont d'ailleurs conviés au banquet. Bonjour Dominique André.
Bonjour.
Emmanuel Macron veut mettre sur la table le dossier ukrainien.
La guerre en Ukraine, au cœur de l'Europe, est un sujet prioritaire, a fait savoir l'Élysée. Hier, le journal Le Figaro a publié une tribune de Xi Jinping dans laquelle il écrit espérer que la paix et la stabilité reviennent rapidement en Europe. Mais le président chinois n'a jamais condamné l'invasion russe et prochainement, il recevra Vladimir Poutine pour la deuxième fois à Pékin depuis le mois d'octobre. Durant cette visite d'État, l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est que la Chine fasse pression pour faire évoluer Poutine et trouver une solution à ce conflit. Emmanuel Macron le croit-il vraiment? Que veut au juste Xi Jinping, lui qui n'a parlé qu'une seule fois en un an par téléphone au président ukrainien Zelensky.
Et autre dossier sensible, Dominique, celui des relations tendues entre Chine et Europe à propos du commerce.
Avec 49 milliards d'euros de déficit commercial pour la France en Chine et près de 400 milliards pour l'Union européenne, le rééquilibrage de la relation commerciale, c'est l'autre priorité de cette visite d'État. La politique défensive de l'Europe sur les voitures électriques chinoises irrite profondément Pékin. Bruxelles a lancé une enquête sur les subventions qui permettent aux industriels chinois de casser leurs prix. Il n'est pas impossible que des droits de douane soient imposés par Bruxelles à la Chine, qui a été qualifiée de partenaire, concurrent et rival systémique en 2019.
Et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est d'ailleurs de la partie aujourd'hui à l'Élysée. Elle enfonce le clou quelques heures avant la rencontre. Dans un communiqué, elle dénonce une concurrence déloyale. La Chine, dit-elle, fabrique avec des subventions massives plus qu'elle ne vend. Résultat, une offre excédentaire de produits chinois subventionnés comme les véhicules électriques et l'acier. Demain, Emmanuel Macron et Xi Jinping sont dans les Pyrénées au col du Tourmalet avant un départ du président chinois pour deux autres pays proches de Moscou, la Serbie et la Hongrie. Le président de la République occupé donc avec son homologue chinois pendant que sa majorité, elle, dévoile son programme pour les élections du Parlement européen dans un mois. Le camp présidentiel tente de se relancer, toujours largement distancé dans les intentions de vote par le Rassemblement national. Marie Mollet.
48 propositions sur le livret pour jouer la carte du sérieux et de la crédibilité. Trois axes prioritaires, la défense, l'industrie, avec notamment la proposition d'une préférence européenne pour les marchés publics dans certains secteurs stratégiques comme l'armement. Et enfin, la défense des valeurs démocratiques avec, entre autres, l'inscription de l'IVG dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La suite, présentée ce matin, il était temps, alors que sur le terrain, les militants ont souffert de n'avoir aucune idée concrète à vendre sur les marchés, témoigne un ministre. On va appuyer sur le champignon, promet un cadre de la campagne pour sortir du bourbier sondagier, alors que le discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron n'a eu aucun effet sur les courbes. Pendant ce temps, le chef de l'État tord le bras de ses ministres pour les faire entrer en campagne, à commencer par Gabriel Attal, qui a pris tout son temps avant de s'impliquer. Mais pour remonter la pente, il n'y a pas de bouton magique, reconnaît un cadre Renaissance. Il faut tout faire, débat, meeting, réunion publique, et vite.
Et un meeting d'ailleurs demain de la liste Renaissance à la Mutualité à Paris, en présence notamment de Gabriel Attal, tandis qu'en Allemagne, la campagne pour les européennes se tend dramatiquement après l'agression à Dresde d'un député européen SPD et d'un militant écologiste frappé à coups de pied et de poing alors qu'il placardait des affiches pour le scrutin. C'était vendredi soir. Un adolescent s'est rendu hier à la police. Mais l'événement créait une onde de choc en Allemagne. Deux manifestations contre les violences en politique ont eu lieu dans la soirée, l'une à Dresde, l'autre à Berlin, porte de Brandebourg, où Sébastien Baer a rencontré des manifestants inquiets du climat de la campagne.
De la foule émergent quelques drapeaux. Les verts du parti écologiste, dont un militant a été frappé à coups de pied et de poing, et les rouges du SPD, le parti social-démocrate du député européen agressé à Dresde.
Moi, je suis SPD. L'attaque, c'est affreux. Ça m'a choqué. Ça peut tomber sur n'importe qui. Hein.
Partout, élus et militants sont de plus en plus souvent pris à partie. 112 délits liés à des motivations politiques recensés dans la région de Saxe depuis le début de l'année. Lars Klingbeil, le chef du parti social-démocrate, accuse l'extrême droite de durcir la campagne électorale.
L'ambiance est plus polarisée. Les attaques ont augmenté. Le langage devient plus brutal. Il y a des appels à la violence. Nous en faisons l'expérience dans la rue et sur Internet. L'AFD crée un climat social pour que les démocrates soient attaqués.
Depuis les agressions, les tractages et affichages du SPD sont organisés seulement en journée. Même précaution chez les Verts, assure la coprésidente Ricarda Lang, protégée par trois gardes du corps.
Nous avons fait des recommandations concrètes. Ne plus se déplacer seul pendant la campagne électorale. Il faut veiller à ce qu'il y ait des formations sur la manière de gérer les situations difficiles. Et bien sûr, que la police soit présente sur le terrain et bien préparée.
Après les européennes, trois élections régionales sont prévues en septembre en Saxe, Thuringe et dans le Brandebourg. Des scrutins jugés à risque dans trois Länder de l'ex-Allemagne de l'Est où l'extrême droite fait la course en tête.
À l'étranger encore, des images sidérantes de barques qui circulent dans ce qui était des rues et des avenues, mais désormais inondées. Le centre de la grande ville brésilienne de Porto Alegre est totalement sous l'eau après les pluies torrentielles qui ont provoqué des inondations meurtrières. Au moins 78 morts, plus de 100 disparus, plus d'un million de personnes privées d'eau. À Gaza, les civils commencent à être évacués de Rafah, selon l'armée israélienne. C'est ce que nous indique ce matin notre correspondant sur place, précision dans le journal de 8h.
Il est 7h07, le grand bandit. Corse, Anaïs, devant les assises.
Ouverture du procès cet après-midi à Aix-en-Provence des assassins présumés de deux membres du grand banditisme tués en 2017 sur le parking de l'aéroport de Bastia, dénoncé par une surveillante de la prison de Borgo. On y revient dans une demi-heure. Les 16 accusés sont poursuivis pour ces assassinats. Ils voulaient venger leur père eux-mêmes. Supprimé, c'était les fondateurs du gang de la Brise de Mer qui a dominé le crime français depuis la fin des années 70 pendant 25 ans. Dizaines d'attaques à main armée contre des banques ou des fourgons blindés. À Sevran, en région parisienne, la criminalité liée au trafic de drogue, cette fois, a fait 3 morts en 48 heures. Deux hommes de 35 et 31 ans tués par balle hier après la fusillade de vendredi. Le ou les suspects ont pris la fuite. Sevran avait fait l'objet d'une opération Place Net XXL contre la drogue fin mars. La gendarmerie, par ailleurs, elle se distingue dans les Yvelines avec cette opération qui est tout le contraire de la répression. À Bois d'Arcy, on répare les vies cabossées. Les gendarmes du département ont en effet ouvert à un institut de beauté qui propose aux victimes de violences conjugales et intrafamiliales des soins gratuits, massage, manucure, maquillage, avec une socio-esthéticienne au sein même de la maison de protection des familles gérée par la gendarmerie. L'institut a ouvert la semaine dernière et c'est une première. Reportage pour France Inter d'Ajra Mohamed.
Pour son premier rendez-vous à l'Institut, Corinne a choisi un massage du corps. Elle s'abandonne aux mains de la socio-esthéticienne pendant une heure et à la fin, la sensation d'être tout simplement...
légère. J'ai perdu 5 kilos ou 10 kilos de tension, mais extrêmement légère.
Victime de violences conjugales, Corinne a renoncé pendant des années à s'accorder du temps rien que pour elle.
Parce qu'en attendant justement à rester vraiment la tête dans les soucis, quoi. Entre les procédures judiciaires, le travail. Et là, de se dire que d'autres ont pensé qu'on en a besoin, et ben là, ça me permet de me rendre compte que oui, c'est très important de me recentrer sur moi, en fait.
Musique et lumière douce, diffuseurs d'huiles essentielles, déco très soignée. Les gendarmes des Yvelines ont monté cette cabine de soins eux-mêmes en 3 semaines.
Moi, je voulais vraiment qu'elles aient l'impression d'être comme chez elles, en fait.
La major Jessica Dubois a imaginé ce passage en institut comme une étape de plus dans le parcours de chaque victime.
Il y avait un manque, à un moment donné, sur la partie reconstruction. Et l'idée, c'était que dans un lieu sécurisé, qui est dans une gendarmerie, elles puissent souffrir souffler, retrouver un peu de dignité.
Pour le moment, l'Institut de beauté n'est ouvert qu'une journée par mois pour accueillir les victimes de violences, aussi bien des femmes que des hommes.
Reportage Ajra Mohamed, et pour l'instant, 6 femmes ont pu profiter de cet institut de beauté de la gendarmerie. Le gouvernement lance aujourd'hui des assises de lutte contre l'antisémitisme. La ministre Aurore Berger réunit ce matin les responsables de plusieurs associations et les représentants des 6 principaux cultes. Les politiques, eux, seront invités, mais après les européennes de juin. Selon une enquête commandée par l'American Jewish Committee, 94% des Français de confession juive estiment que l'antisémitisme a progressé depuis une quinzaine d'années.
Il est 7h10, il y a tout juste 30 ans, l'Angleterre cessait d'être une île.
Eh oui, découvrait une frontière terrestre avec la France, vieux rêve de plus de 2 siècles. Le tunnel sous la Manche était inauguré ce 6 mai 1994 avec François Mitterrand et la reine Elisabeth II en tenue fuchsia qui fleurait bon les années 90. Les 3 tunnels, un des tunnels dans le sens France-Angleterre, l'autre Angleterre-France et le tunnel de service reliaient donc au fond de la Manche, Coquel dans le Pas-de-Calais à l'Angleterre. L'ouvrier français qui symboliquement réalisa la jonction avec les collègues anglais s'appelle Philippe Cosette et François Ventéjou l'a rencontré.
Les images des derniers coups de marteau-piqueur, Philippe Cosette les connaît par cœur, mais à chaque fois c'est le même sentiment.
Beaucoup de fierté. Là, c'est l'explosion de joie lorsque je touche la main de Graham Fagg. Il m'a dit « Bonjour mon ami » en bon français. Et moi, je lui ai répondu « Welcome to France » parce qu'on était du côté français.
La poignée de main est historique. La France et le Royaume-Uni sont désormais reliés. Et ce tunnel va changer la vie des habitants du Pas-de-Calais.
La région était plutôt enclavée. Le tunnel sous la Manche a amené la voie à grande vitesse depuis Paris, depuis Bruxelles. Également les 2 autoroutes, la 26 et puis la 16 qui a relié tous les ports de la région.
La vie de Philippe Cosette continue sous terre, même après le chantier. Il travaille comme conducteur de train. Il voit les premiers migrants tenter la traversée et les abords du tunnel se transformer.
10 km de grillage et ensuite il y a encore eu un deuxième grillage d'installer.
Une forteresse surveillée au quotidien depuis le ciel.
Les hélicoptères de surveillance, les avions de surveillance, ça fait partie du décor.
Un décor dans lequel il organise des visites guidées pour les touristes. Il veut perpétuer la mémoire de ce qu'il appelle le chantier de sa vie.
Les 35e nuit des Molières ce soir pour départager les meilleurs spectacles de l'année au théâtre et les meilleurs comédiens. La pièce Courgette compte des nominations dans 7 catégories. Les Molières, c'est ce soir aux Folies Bergères et en léger différé sur France 2. Eux ont déjà décroché leur finale de rêve. Les Toulousains disputeront la finale de la Coupe d'Europe de rugby contre les Irlandais du Leinster. Le Stade Toulousain a battu hier les Harlequins 38 à 26 au terme d'un match spectaculaire. Une finale de rêve donc entre les 2 meilleures équipes du monde, mais aussi une histoire de revanche pour les Toulousains, souvent battus par les Irlandais ces dernières années, Fanny Le Chevestrier.
Le contraste était saisissant hier soir entre l'euphorie des supporters, tout à leur joie de célébrer une 8e finale historique que seule la pluie a fini par faire rentrer chez eux, et la retenue des joueurs toulousains à l'image d'Alexandre Roumat.
Rien n'est fait, rien n'est acquis, et puis toujours pareil, voilà, tant que tu touches pas cette coupe, tant que tu gagnes pas un titre, j'ai envie de dire, ça sert à rien de faire les beaux.
Le troisième ligne n'a pas tort, surtout quand vous allez vous frotter dans 3 semaines à la moitié de la sélection irlandaise. Notre ogre, dit du Leinster, le manager Hugo Mola, avec un goût de revanche dans la bouche de François Cross.
Les finales sont belles, mais celle-là le sera d'autant plus parce que c'est une équipe qui nous a éliminés pas mal de fois. Donc là, on a la chance de les affronter en finale sur terrain neutre. Et voilà, on en a hâte d'y être. Donc il nous reste 3 semaines pour nous préparer et feu.
Et malin, le capitaine Antoine Dupont a déjà trouvé un moyen d'inverser la pression.
Nous, on s'est arrêté 2 fois en demi face à eux, mais eux sont arrivés en finale pour ne pas la gagner. Donc je ne sais pas qui est le plus heureux ou malheureux dans l'histoire.
Bon, pour les plus heureux, on a notre petite idée. Les fans de rugby se délectent déjà d'assister à un nouvel épisode de Star Wars. La guerre des étoiles version Ovalie. Entre Toulouse, 5 étoiles sur le maillot, un record. Et le Lannister, son dauphin, avec 4 sacres à son actif.
Et cette finale, ce sera dans 3 semaines, le 25 mai, dans le stade de Tottenham à Londres.
Merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, comme tous les lundis avant les élections, c'est le feuilleton de l'Europe, aujourd'hui en Slovaquie, où le nouveau pouvoir divise.